Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Psachim, page 70 d'Af Ayin. Bonne écoute et bon limoud.
Lav chovai, ce n'est pas une obligation. Deis al kada atar chovai, car si tu penses dire que c'est une obligation, titi beshabbat. On aurait pu l'amener, ce sacrifice de Chagiga, accompagnant le sacrifice de Pessah, même lorsque la veille de Pessah tombe en Shabbat, on aurait dû l'amener. Vetiti bemerubé. Et on aurait dû l'amener aussi, même s'il y a suffisamment de viande dans le sacrifice de Pessah pour tous ceux qui ont été nommés sur ce sacrifice, malgré tout, on aurait dû accompagner le sacrifice de Pessah de ce sacrifice de Chagiga. Vetiti betuma. Et on aurait dû l'amener aussi, même lorsque la majorité du peuple d'Israël est en état d'impureté, étant donné que c'est une obligation, on aurait dû amener ce sacrifice de Chagiga. Étant donné que, malgré tout, on ne l'amène pas, donc ça vient nous dire, en fait, que le sacrifice de Chagiga que l'on apporte le 14, c'est-à-dire la veille de la fête, n'est pas une obligation. Celui qu'on apporte durant la fête, lui, est obligatoire. Mais l'apporter la veille de la fête, ce n'est pas une obligation. La Gemara demande, alors si ce n'est pas une obligation, ben moi, alors lorsqu'il n'y a pas suffisamment de viande pour toutes les personnes qui ont été nommées sur le sacrifice de Pessah, miou maïta amatia. Alors au moins, mais pour quelle raison alors amenons-nous ce sacrifice de Chagiga la veille de Pessah? La Gemara nous répond, qu'est-ce que Tania, comme ce que nous avons enseigné dans une braïta. Chagiga abaim a Pessah, le sacrifice de Chagiga de la fête accompagnant le sacrifice de Pessah, nechelet techila, est mangé en premier, c'est-à-dire lorsqu'on a fait ces deux sacrifices la veille de Pessah. Celui de Chagiga et celui de Pessah, alors on mange d'abord le sacrifice de Chagiga, et après on mange le sacrifice de Pessah, afin que le sacrifice de Pessah soit mangé sur l'assiette. Donc, en fait, étant donné qu'il y a une mitzvah de manger le sacrifice de Pessah lorsqu'on est rassasié, et dans un cas où il n'y a pas suffisamment de viande pour chacun dans le sacrifice de Pessah, alors on a amené un autre sacrifice, le sacrifice de Chagiga, pour que tout le monde puisse manger auparavant la quantité de nourriture qu'il a besoin pour être rassasié, et à la fin, il prendra un petit bout du sacrifice de Pessah. La Gemara Banan nous rapporte un extrait de la Mishnah. Et le sacrifice de Chagiga peut être mangé durant deux jours et une nuit. Alors la Mishnah, la Gemara nous dit, notre Mishnah ne suit pas l'opinion de Bentema, d'Etania, car nous avons enseigné dans une braïta. Bentema Omer, Bentema dit, Chagiga abaim Pessah, le sacrifice de Chagiga de la fête, accompagnant le sacrifice de Pessah, c'est-à-dire lorsqu'il est amené avec le sacrifice de Pessah, Hareik et Pessah, elle est considérée comme étant le sacrifice de Pessah en elle-même, en lui-même. Ve'ena ne'echelet ela le'yom ba'la'ela. Et il n'a le droit d'être mangé que durant un jour et une nuit. De même que le sacrifice de Pessah est mangé durant la nuit jusqu'au matin, le sacrifice de Chagiga, lui, a le droit d'être mangé aussi jusqu'au matin. Que jusqu'au matin. Et donc, nous voyons ici que ça contredit l'opinion de la Mishnah où nous avons vu deux jours et une nuit. Et une seconde loi, Bentema nous dit, de Chagigat Chamisha Asar, Nechelet Lishne Yamim Belaila Echad. Par contre, le sacrifice de Chagiga que l'on apporte le 15 Nissan, c'est-à-dire le lendemain du jour où on a offert le sacrifice de Pessah, il est donc amené durant la fête. Alors à ce moment-là, Nechelet Lishne Yamim Belaila Echad. Celui-là, ce sacrifice, lui, il a le droit de manger durant deux jours et une nuit. De Chagigat Arba Asar, et le sacrifice que l'on a prélevé pour être offert le 14 Nissan. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas où quelqu'un pensait ne pas avoir suffisamment de viande dans son sacrifice de Pessah, il a prélevé un sacrifice de Chagiga pour l'offrir avec le sacrifice de Pessah et manger auparavant, comme nous l'avons vu plus haut, le sacrifice de Chagiga et finir avec le sacrifice de Pessah. Puis finalement, il y a certaines personnes qui sont parties faire le sacrifice de Pessah avec quelqu'un d'autre, et il se trouve qu'il a suffisamment de viande dans son sacrifice de Pessah. Donc maintenant, il ne va pas offrir le sacrifice de Chagiga le 14, bien qu'il a été prélevé pour être offert le 14. Et donc, il va offrir son sacrifice de Chagiga le 15. Alors, ce qui va se passer avec Chagiga Tarba Asar, c'est-à-dire le sacrifice de Chagiga qu'on a prélevé pour être offert le 14, et que finalement, on va offrir le 15, Yotseba Mishum Simcha. Alors, lorsqu'il offre le 15, il accomplit son obligation de se réjouir durant la fête, mais il n'accomplit pas son obligation d'amener un sacrifice de la fête durant la fête. Et il faut savoir que durant toutes les trois fêtes, il y a deux obligations. Premièrement, de se réjouir durant la fête. Se réjouir, ça veut dire manger de la viande et boire du vin. Manger de la viande, c'est manger de la viande de sacrifice. Donc il faut amener des sacrifices pour se réjouir. Ça s'appelle Chovat Simcha, l'obligation de se réjouir. À part ça, il y a la Chovat Chagiga, l'obligation d'amener un sacrifice de Chagiga, le sacrifice de la fête, et lui aussi de le consommer. Maintenant, il y a une loi qui nous dit que toute chose dont on a l'obligation d'amener en tant que sacrifice au temple ne peut être prélevée que de quelque chose de profane. C'est-à-dire que j'ai pas le droit, par exemple, de prendre une bête qui a déjà été sanctifiée, par exemple, en tant que Bechor, premier-né. J'ai pas le droit de prendre une telle bête pour accomplir mes obligations de sacrifice. Par exemple, si je veux l'amener en tant que sacrifice de Chagiga, en tant que sacrifice de la fête, étant donné que si j'ai une obligation d'amener le sacrifice, je n'ai pas le droit d'utiliser une bête qui a été sainte, une bête qui a été sanctifiée pour accomplir mon obligation. Mais il existe une exception à cette loi, et c'est à propos de l'obligation de la simcha, de l'obligation de se réjouir durant la fête. Comme nous l'avons vu plus haut, on a une obligation de se réjouir durant la fête en apportant des sacrifices et en mangeant de leur viande, et c'est vrai que c'est une obligation que nous avons d'apporter des sacrifices, mais on peut se rendre quitte de cette obligation en apportant des choses qui sont déjà saintes. Par exemple, en apportant une bête qu'on a sanctifiée au temple en tant que sacrifice, on a dit ça en vœu pour le temple. Ou un béchor, une bête qui est premier-né. Et donc, maintenant, la Gemara nous dit qu'une bête qui a été sanctifiée peut être offerte le 14 en tant que Chagiga. Et qu'on ne l'a pas utilisée le 14. Donc, en fait, elle est sainte. Alors, étant donné qu'elle est sainte, on ne pourra plus l'utiliser pour se rendre quitte de son obligation d'amener le sacrifice de Chagiga le 15 Nissan. Car étant donné qu'on a une obligation d'amener un sacrifice de 15 Nissan, on ne peut amener une telle obligation d'une bête qui est sanctifiée. Par contre, on peut avec cette bête se rendre quitte de son obligation de la Simcha, de se réjouir durant la fête en apportant un sacrifice. Car, comme nous l'avons vu, à propos de la Simcha, c'est l'exception qui nous dit qu'on a le droit d'apporter une bête qui a été sanctifiée pour se rendre quitte de cette obligation. Et c'est donc ce que la Gemara nous dit maintenant. Vechagigat arba asa est un sacrifice de Chagiga que l'on a sanctifié pour être apporté le 14 et que l'on n'a pas apporté le 14. Alors, yotseba mishum sifra, si on l'apporte le 15, on peut avec cette bête se rendre quitte de son obligation des réjouissances durant la fête. Ven yotseba mishum Chagiga, par contre, on ne peut pas se rendre quitte avec cette bête de son obligation d'amener le sacrifice de Chagiga durant la fête. Maintenant, la Gemara demande. Maïta ama de Bentema. Quelle est la raison de Bentema? C'est-à-dire, pourquoi considère-t-il le sacrifice de Chagiga, quand on apporte le 14 Nissan avec le sacrifice de Pessah, comme un sacrifice de Pessah? Anma nous répond, que de madne Rav le chiabre, ainsi que l'enseigné Rav a chia son fils. Il est écrit dans le verset, velo yalin la boker zevach chag a Pessah. Et on ne fera pas passer la nuit jusqu'au matin le sacrifice de la fête de Pessah. Et là, Bentema apprend deux choses. Zevachag, le sacrifice de la fête de Chagiga, ça nous parle du sacrifice de Chagiga. HaPessah, Kemashmo, et ce qui est écrit HaPessah de Pessah, c'est comme cela sous-entend, c'est-à-dire comme le sacrifice de Pessah. Et donc, en fait, lui, Bentema apprend que dans ce verset, il y a deux sacrifices qui sont mentionnés. Le sacrifice de Chagiga et le sacrifice de Pessah. Et ces deux sacrifices ne doivent pas passer la nuit jusqu'au matin, c'est-à-dire après le matin, on n'a plus le droit de les manger. Donc de là, il apprend que le sacrifice de Chagiga, lui aussi, n'a plus le droit d'être mangé au matin, et non pas deux jours et nuit, comme nous l'avons enseigné dans la Mishnah. Et c'est ce que la Gemara nous dit, Ve'amar Rahmana, la Torah a dit, Loyalin, on ne leur fera pas passer la nuit jusqu'au matin. Ibayaleu, la Gemara ils se sont posé la question. Les Bentema, d'après Bentema, Necheretzli ou Necheretzli? Est-ce que le sacrifice de Chagiga doit être mangé grillé ou n'a-t-il pas besoin de manger grillé? C'est-à-dire qu'il y a une loi qui nous dit à propos du sacrifice de Pessah que la seule façon que l'on a le droit de cuisiner le sacrifice de Pessah, c'est en le grillant sur le feu. Et c'est ainsi qu'on doit le manger. Alors maintenant, la question elle se pose, qu'en est-il à propos du sacrifice de Chagiga accompagnant le sacrifice de Pessah? Étant donné que nous avons vu qu'il y a déjà une loi qui ressemble au sacrifice de Pessah, alors peut-être que sur ce point-là aussi, il ressemble au sacrifice de Pessah. Et c'est ce que la Gemara nous explique. Kiachi Rahmana le Pessah, lorsque la Torah a juxtaposé le sacrifice de Chagiga au sacrifice de Pessah, l'Elina, peut-être que c'est que à propos de la question à savoir, est-ce qu'on a le droit de le manger plus tard que le lendemain matin ou pas? Aval esli, mais à propos de du point, est-ce que le sacrifice de Kriga doit être grillé ou pas? L'eau, ça n'a pas été juxtaposé au sacrifice de Pessah, et on a le droit de le cuisiner comme on le veut. Au Dilma, ou peut-être, l'Oshna. Il n'y a pas de différence, et pour tout ça a été juxtaposé, et donc, il doit lui aussi être grillé sur le feu. Alors, l'Agma nous dit, Tashma, bien écoute une preuve. Halayla azé, kulotsi. Ce soir-là, c'est-à-dire le soir du sacrifice de Pessah, toute viande est mangée et grillée. Ve'amar Rafriza, et Rafriza a dit, Zout ivre bentema, ce sont là les paroles de bentema. Donc, Shma Mina, donc de là, ça sous-entend que lorsque nous disons toute viande doit être mangée grillée, ça veut dire que même le sacrifice de Pessah, de Chagiga, doit être mangé grillée. Ils se sont posé la question, les Bentema, d'après Bentema, Ba'amina Bakar ou Ena Ba'amina Bakar? Est-ce que le sacrifice de Pessah, de Chagiga, a le droit d'être amené du gros bétail ou n'a-t-il pas le droit d'être amené du gros bétail? C'est-à-dire qu'il y a une loi qui nous dit que le sacrifice de Pessah, lui, n'a pas le droit d'être amené du gros bétail. Alors qu'en est-il du sacrifice de Chagiga accompagné au sacrifice de Pessah? Lui, est-ce qu'on a le droit de l'amener du gros bétail ou pas? Ba'amina Nekevot ou Ena Ba'amina Nekevot? Est-ce qu'on a le droit d'amener une femelle en tant que sacrifice ou pas? Car à propos du sacrifice de Pessah, on n'a pas le droit d'amener une femelle. Qu'en est-il à propos du sacrifice de Chagiga accompagnant le sacrifice de Pessah? Ba'abat Shteshanim ou Ena Ba'abat Shteshanim? A-t-on le droit d'amener une bête de plus de 2 ans ou pas? À propos du sacrifice de Pessah, on n'a pas le droit. Qu'en est-il à propos du sacrifice de Chagiga accompagné au sacrifice de Pessah? Et maintenant, pour quelle raison avons-nous des doutes sur tous ces points-là? Qui a tché Rachmana le Pessah? Lorsque la Torah a juxtaposé le sacrifice de Chagiga au sacrifice de Pessah, les midés d'Achila, peut-être que c'est que à propos des questions concernant la façon de le manger. Et donc, la façon de manger, c'est-à-dire la façon de le cuisiner, et jusqu'à quand on a le droit de le manger. Avant l'école milé, mais peut-être que sur tous les autres points, l'eau, la Torah n'a pas juxtaposé le sacrifice de Pessah au sacrifice de Chagiga. Odilma, ou peut-être que non. L'Oshna, il n'y a pas de différence. Et le sacrifice de Chagiga a été juxtaposé au sacrifice de Pessah pour toutes les lois. Alors, Agma nous dit, Tashma, viens écoute. Chagiga abaima Pessah. Le sacrifice de Chagiga accompagnant le sacrifice de Pessah. Arike Pessah. Elle est considérée comme le sacrifice de Pessah en lui-même. Ba'aminaton, vena ba'aminabakar. On devra l'amener du menu bétail et on n'aura pas le droit de l'amener d'une gros bétail. Ba'aminazkarim, vena ba'aminanekevot. On devra l'amener des mâles et on n'aura pas le droit d'amener des femelles. Ba'abat shnata, vena ba'abat shteshanim. On devra amener une bête qui a 1 an et on n'aura pas le droit d'amener une bête qui a 2 ans. Vena nechelet, el aleyom belaila. Et on n'aura le droit de le manger que durant un jour et une nuit. C'est-à-dire jusqu'au matin. Vena nechelet, el atli. Et on a le droit de le cuisiner seulement lorsqu'il est grillé. Et c'est comme cela qu'on devra le manger. Vena nechelet, el alimnouyav. Et il n'est mangé que pour ceux qui ont été nommés sur ce sacrifice. Alors l'Agma nous dit, Manchamatle deitle aizvara. De qui avons-nous entendu dire qu'il pense un tel raisonnement, que le sacrifice de Chagiga n'a le droit d'être mangé que jusqu'au matin? Bentema, c'est l'opinion de Bentema. Et nous avons vu que dans cette même braïta, nous voyons que toutes les lois qui s'appliquent à propos du sacrifice de Pessah s'appliquent aussi à propos du sacrifice de Chagiga accompagnant le sacrifice de Pessah. Donc en fait ici, ça répond aux questions que nous avons vues plus haut. Shmamina, cela sous-entend Kulum milta bainan Shmamina. Que toutes les règles qui s'appliquent à propos du sacrifice de Pessah s'appliquent aussi à propos du sacrifice de Chagiga l'accompagnant. Ibayaleu, ils se sont posé la question. Les Bentema, d'après Bentema, Yesh Bamishun Shvirat Etzem ou En Bamishun Shvirat Etzem? Est-ce qu'il y a un interdit d'en casser les os ou il n'y a-t-il pas un interdit d'en casser les os? C'est-à-dire, à propos du sacrifice de Pessah, il y a une loi spéciale qui nous dit que l'on n'a pas le droit d'en casser les os. Il est interdit d'en casser les os. Alors l'Agma maintenant se pose la question, qu'en est-il à propos du sacrifice de Chagiga accompagnant le sacrifice de Pessah? Étant donné que sur tous les autres points, les lois qui s'appliquent à propos du sacrifice de Pessah s'appliquent à propos du sacrifice de Chagiga. Alors est-ce que sur ce point-là aussi, ou pas? Et l'Agma explique immédiatement la raison du doute. A Falgav, Dechiyakshir Rachmana le Pessah, bien que la Torah a juxtaposé le sacrifice de Chagiga au sacrifice de Pessah, à Margra, par contre le verset a dit, Bo, en lui. C'est-à-dire, il est écrit Ve'et Temnotish Verubo. Et un os, vous ne casserez pas en lui lorsque nous parlons du sacrifice de Pessah. Et donc de là, j'apprends Bo en lui, mais l'obé Chagiga. Par contre, cette loi ne s'applique pas à propos du sacrifice de Chagiga. Odilma, ou peut-être que non. Haïbo, peut-être que en lui, ça vient nous dire, Bekacher, mais l'obé Pasoul, que l'interdit de casser des os du sacrifice de Pessah, c'est seulement lorsque le sacrifice est valide, et pas dans le cas où il a été invalidé, ou d'attaquer pour cela qu'il est venu ce mot Bo. Et donc, en fait, nous avons un doute que ce que nous apprenons du mot beau. Est-ce que nous voulons exclure le sacrifice du Chagiga de cette loi qui nous interdit d'en casser les os? Ou est-ce que nous voulons exclure de cette loi les sacrifices de Pessah qui ont été invalidés? Ragmanu et Tashma, viens écoute. Sakin shenimtet be'arba'asar. Quelqu'un qui a trouvé un couteau qui sert à l'abattage rituel le 14 Nissan, c'est-à-dire la veille de Pessah, le jour où on amène le sacrifice, shochet bamiyad, on a le droit de l'utiliser immédiatement pour l'abattage rituel. Car même si ce couteau était impur, c'est sûr que les propriétaires, la veille, l'ont purifié en l'immergeant dans le bain rituel, et donc le couteau est pur. Et c'est vrai qu'il y a une loi qui nous dit que tout ustensile qui est devenu impur, par exemple en ayant touché un mort, alors il devra attendre le soir pour être complètement pur et pour pouvoir être utilisé pour abattre des sacrifices. Mais étant donné que nous sommes la veille de Pessah, et c'est sûr que le propriétaire de ce couteau a pensé l'utiliser pour abattre son sacrifice, donc c'est sûr que le propriétaire de ce couteau a tout fait pour le purifier, et donc l'a purifié déjà depuis la veille. C'est pour cela que celui qui trouve ce couteau aura le droit de l'utiliser immédiatement. Par contre, si le couteau a été trouvé bishlosha, ça, si le couteau a été trouvé le 13 Nissan, c'est-à-dire la veille du jour où on amène le sacrifice de Pessah, alors on peut craindre que ce couteau n'a pas encore été purifié. Car son propriétaire se dit, j'ai toute la journée jusqu'au soir pour le purifier. Alors c'est pour cela que Shoné ou Madvin, il devra recommencer et lui aussi l'immerger dans un bain rituel, mais si son propriétaire l'a fait, lui devra le refaire à cause justement de ce doute de savoir est-ce que le propriétaire l'a vraiment fait ou pas. Par contre, si ce qu'il a trouvé, c'est un kofit, c'est-à-dire une sorte de hachette ou de gros couteau que l'on utilisait pour couper la viande et couper les os des bêtes. Dans un cas pareil, ben bézé ou ben bézé, que ce soit qu'il ait trouvé le 13 Nissan ou que ce soit qu'il ait trouvé le 14 Nissan, shoné ou madbil, il le réimmerge dans un bain rituel pour le purifier, car l'on craint que ce koufit, cette petite hachette, n'ait pas été et soit devenu impur et que son propriétaire ne l'est pas purifié. Et pour quelle raison, en fait, y a-t-il une différence entre un couteau et cette hachette? La raison est très simple. Étant donné que le couteau, on l'utilise pour l'abattage rituel, c'est sûr que le propriétaire l'a purifié, car il va l'utiliser pour l'abattage rituel. Par contre, cette petite hachette, la seule raison pour laquelle on l'utilise, c'est pour en couper les os d'un sacrifice. Or, il y a une loi qui nous dit que le sacrifice de Pessah, on n'a pas le droit d'en couper les os. Donc en fait, le propriétaire de cette hachette sait qu'il ne va pas l'utiliser. Parce que maintenant, ce qu'on va amener, c'est le sacrifice de Pessah. Et donc, puisqu'il sait qu'il ne va pas l'utiliser, même si elle est devenue impure, alors, il ne la purifie pas parce qu'il ne va pas en avoir besoin. C'est pour cela que si quelqu'un la trouve et qu'il veut malgré tout l'utiliser, par exemple, pour recouper la viande du sacrifice ou pour abattre le sacrifice avec cette petite hachette, alors, il devra auparavant la purifier. Ragman nous demande, Mani, cette braïta suit l'opinion de qui? Il y marabanan, si nous allons dire que cela suit l'opinion des sages, machna sakin de madbil, de chazia les pesar. Pour quelle raison disons-nous que lorsqu'il trouve un couteau le 14 Nissan, c'est sûr que ce couteau a été purifié, parce que on a peur l'utiliser pour le sacrifice de pesar, et donc c'est sûr que les propriétaires l'ont purifié, car ils vont l'utiliser pour le sacrifice de pesar. Kufit nami, cette petite achète aussi, ha chazia les chagiga. Ça peut être utilisé pour le sacrifice de Chagiga. Car d'après les sages, c'est vrai que le sacrifice de Pessah, on n'a pas le droit d'en casser les os, mais le sacrifice de Chagiga, c'est sûr qu'on a le droit d'en casser les os. Et donc, puisqu'on a le droit d'en casser les os, avec quoi on va le casser? Avec un koufit. Donc, les propriétaires de ce koufit savent très bien qu'ils vont en avoir besoin. Donc, c'est sûr qu'ils l'ont purifié pour pouvoir l'utiliser pour le sacrifice de Chagiga. Et donc, pour quelle raison faisons-nous une différence entre un couteau et une petite hachette? Et la lave, alors, n'est-ce pas? De Bentema, que cette braïta suit l'opinion de Bentema. Veshma Mina, cela donc nous sous-entend, Yeshba Mishum Shvirat Ha'etem, qu'il y a un interdit d'en casser les os. Et puisqu'il est interdit d'en casser les os, de même qu'il est interdit de casser les os du sacrifice de Pessah, donc à ce moment-là, il n'y a plus aucune utilisation à cette hachette, et c'est pour ça que les propriétaires ne l'ont pas purifié. Alors on répond, non. Leolam Rabbanan. Nous pouvons toujours dire que cette braïta suit l'opinion des sages. Bekigon, Sheba Beshabbat. Et ici, nous parlons d'un cas où le 14 Nissan, la veille de Pessah, tombe un Shabbat. Et donc, comme nous l'avons vu plus haut, dans un cas pareil, on n'apporte pas de sacrifice de Chagiga. Et donc, puisqu'on n'apporte pas de sacrifice de Chagiga, c'est vrai qu'on a le droit d'en casser les os. Mais puisqu'on ne l'apporte pas, alors on ne va pas lui en casser les os. Donc, on n'a plus besoin d'utiliser cette hachette. Donc, c'est pour ça que le propriétaire ne l'a pas purifiée. Et si on la trouve, on devra la purifier, nous. La Gemara demande, mais puisque la fin de cette braïta nous dit, Chal arba asar liot b'shabbat, que si le 14 Nissan tombe un Shabbat, Shochet bamiyad, on a le droit de l'utiliser immédiatement pour abattre la bête. C'est-à-dire que si on a trouvé une petite hachette, le 14 Nissan, lorsque la 14 Nissan tombe un Shabbat, alors à ce moment-là, on ne craint pas que cette hachette est impure, et c'est sûr que le propriétaire l'a purifiée depuis la veille, et on a le droit de l'utiliser immédiatement pour abattre un sacrifice. Et la raison est, étant donné que le 14 Nissan tombe un Shabbat, et que cette petite hachette, c'est sûr que l'on va en avoir besoin durant la fête, et que l'on ne pourra pas la purifier ni le Shabbat ni durant la fête, donc c'est sûr que le propriétaire l'a purifiée déjà depuis la veille, donc il n'y a pas de problème. Ou Bechamisha Asar, et s'il a trouvé cette petite hachette le 15 Nissan, c'est-à-dire durant la fête en elle-même, Shochet Bamiyad, on aura le droit aussi immédiatement de l'utiliser pour abattre un sacrifice. Pourquoi? Parce que, étant donné que les propriétaires savent qu'on a besoin de ces hachettes durant la fête, ils les purifient déjà depuis la veille de la fête. Si on a trouvé un kofit, une petite hachette liée à un couteau, par exemple dans un même trousseau, arek et sakin, elle a les mêmes lois que le couteau. Car on ne dit pas que les propriétaires les a séparés et l'a purifié lui et ne l'a pas purifié l'autre. Donc puisque nous voyons ici que la fin de la braïta nous parle d'un cas où le 14 Nissan tombe à Shabbat. Et donc Michlal de Recha, donc ça veut nous dire que le début de la braïta, lave be Shabbat askinan. Nous ne parlons pas d'un cas où le 14 Nissan tombe un Shabbat. Et malgré tout, nous voyons que s'il a trouvé une petite hachette le 14 Nissan, on ne peut pas se dire que c'est sûr que les propriétaires l'ont purifié, car c'est possible que les propriétaires l'ont pas purifié, car on n'en a pas besoin. Or, normalement, s'il est permis de couper, de casser les os du sacrifice de Chagiga, on en a oui besoin. Et donc, en fait, si malgré tout, la Braïta nous dit que l'on n'en a pas besoin, ça veut dire que l'on n'a pas le droit de casser les os du sacrifice de Chagiga. Alors, la Gemara n'en refute cette preuve. Vela Shebal. Peut-être on doit craindre que le sacrifice de Pessah ici est amené.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Passons à la page suivante. Daf Ein Amudabet, Bemerube, lorsqu'il y a suffisamment de viande pour tout le monde. Or, étant donné qu'il y a suffisamment de viande pour tout le monde, ce n'est pas accompagné d'un sacrifice de Chagiga. Donc on doit craindre que le propriétaire de ce koufit n'avait pas besoin d'amener un sacrifice de Chagiga. Et puisqu'il n'avait pas besoin d'amener un sacrifice de Chagiga, alors il n'a pas purifié cette petite hachette pour le sacrifice de Chagiga, étant donné qu'il ne l'amène pas. Mais c'est vrai que s'il l'avait amené, il l'aurait utilisé pour en casser les os. La Gemara demande, Minayade. Non, c'est pas possible de nous dire que l'on craint une chose pareille. Car le propriétaire lui-même ne peut pas savoir jusqu'à la dernière minute est-ce qu'il va y avoir suffisamment de viande pour tout le monde ou pas. Car à chaque instant, il y a plusieurs personnes qui peuvent se rajouter et être nommées ce sacrifice. Donc c'est possible qu'à la dernière minute, tout d'un coup, il y a 10 personnes qui disent, voilà, on veut faire le sacrifice de Pessah avec toi, on n'a pas trouvé de bête. Et donc, il ne peut pas savoir. Or, puisqu'il ne peut pas savoir, alors lui, il ne prend pas de risque. Et il va purifier quand même cette petite hachette au cas où il aurait besoin d'amener un sacrifice de Chagiga. Mais là, Sheba, alors, on nous dit, on doit craindre que le sacrifice de Pessah est amené, bitouma, lorsque la majorité du peuple d'Israël est en état d'impureté. Et lorsque la majorité du peuple d'Israël est en état d'impureté, on amène le sacrifice de Pessah, mais on n'amène pas le sacrifice de Chagiga. Et puisqu'on n'amène pas le sacrifice de Chagiga, c'est pour ça qu'il n'a pas purifié ce koufit. Comment pouvons-nous craindre une chose pareille? D'où le propriétaire de ce koufit va savoir que le lendemain, la majorité du peuple d'Israël sera impur. Lui, il ne le sait pas, et puisqu'il ne sait pas, il prendra ses précautions et va le purifier ce koufit. En répondant, des maïd nasi. Nous parlons d'un cas où le prince du peuple d'Israël est décédé. Et donc tout le monde est devenu impur en l'accompagnant vers sa dernière demeure, Et donc, tout le monde s'est impurifié ainsi. Alors, il m'a demandé, Maïd Nassiyamat, quand c'est que le prince est décédé. Il m'a dit, Maïd Beshlocha Asar, si nous disons que le prince est décédé le 13 Nissan, Sakil l'amalide matvele. Alors, pour quelle raison a-t-il purifié son couteau? Nous avons vu que le couteau, on le considère comme étant purifié, mais pas la petite hachette. Pourquoi considérons-nous le couteau purifié? Puisque le prince est mort, il sait très bien le propriétaire de ce couteau que la majorité du peuple d'Israël est impur. Et puisque la majorité du peuple d'Israël est impur, le sacrifice de Pessah va être amené en état d'impureté. Il n'a pas besoin de purifier son couteau. Alors pourquoi nous disons qu'on considère qu'il a purifié son couteau? Vela, des maïd barbas. Alors non, en fait, il faut dire que le prince est décédé le 14 Nissan. Et puisqu'il est décédé le 14 Nissan, le 13 Nissan, lorsqu'on purifie ses ustensiles pour le sacrifice de Pessah, il ne savait pas encore que le prince était décédé. C'est pour cela qu'il a purifié son couteau. Alors, Machna Sakin de Madbil, ou Machna Kofis de l'Omadbil. Alors, pour quelle raison y a-t-il une différence entre le couteau et la hachette? Si on dit que l'on peut utiliser la hachette, alors il va aussi purifier sa hachette le 13 Nissan, en même temps que le couteau, puisqu'il il ne sait pas que le prince va être décédé. Alors, il m'a répondu, l'autre ira. Non, nous sommes obligés de dire que nous parlons d'un cas, Denasis Gosses Bishlocha Asar, que le prince est déjà agonisant le 13 Nissan, mais ne décède que le 14. Et donc, le 13 Nissan, lorsqu'on purifie les ustensiles, alors ça qui ne à propos du couteau où il n'y a qu'un doute, à savoir, est-ce que le prince va mourir ou pas? Et donc, à ce moment-là, il y a un seul doute, est-ce qu'il va mourir ou pas? Est-ce que la majorité du peuple d'Israël va être impur ou pas? Et donc, à cause d'un seul doute, de toute façon, Madbillé, il purifie le couteau parce qu'il se dit, quand même, au cas où il ne va pas mourir, il vaut mieux avoir un couteau qui est pur. Par contre, Koufit, la petite hachette, des 13 véqués. Il y a ici deux doutes. Premièrement, est-ce que le prince va décéder ou pas? Deuxièmement, et même si il ne décède pas et que la majorité du peuple d'Israël reste pur, est-ce qu'on va avoir besoin d'amener un sacrifice de Chagiga ou pas? Et donc, il a deux doutes. Est-ce qu'il va avoir une utilisation d'une petite hachette? À cause de ces doutes-là, l'homme Adbilla, à ce moment-là, lui, il ne prend pas la peine de, justement, purifier cette petite hachette. Il se dit, il y a deux doutes. Alors non, de toute façon, sûrement que je risque de ne pas en avoir besoin. Et c'est pour cela qu'il ne la purifie pas. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre le couteau et la hachette. Maintenant, la Gemara revient sur un point que nous avons cité plus haut. Que lorsque la veille de Pessah tombe un Shabbat, on n'apporte pas de sacrifice de Chagiga, c'est-à-dire le sacrifice de Chagiga ne repousse pas le Shabbat. Alors, Tanya, nous avons enseigné dans une Braïta. Yehuda ben Dutai, Piresh hu ve Dutai beno, s'est séparé, lui et Dutai, son fils, des sages, ve'alach ve'yashav lo badarom, et il est parti s'installer dans le sud. Pourquoi? Amar, il a dit, Im yavo Eliyahu ve'yomar lahem l'Israël. Si Eliyahu va venir et va leur dire au béni Israël, Mipnei ma lo chagagtem chagiga be'Shabbat, pour quelle raison n'avez-vous pas offert le sacrifice de Chagiga durant Shabbat? Ma'en omrim lo, que vont-ils lui répondre? T'mihani ashne gdole ador, je m'étonne sur les deux grandes de la génération, Shmaya ve'Avtalion, Shen chachamim gdolim, car ce sont des grands sages, ve'darshanim gdolim, et des grands orateurs, ve'lo amrou lahem l'Israël, Chagiga dochal et Shabbat, et ne leur ont pas dit au béni Israël que le sacrifice de Chagiga repousse le Shabbat. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il pensait que le sacrifice de Chagiga repousse le Shabbat. Il n'était pas d'accord avec les sages qui disaient qu'il ne repousse pas le Shabbat, et c'est pour cela qu'il s'est séparé d'eux. Amarav, Ravadi, Maïta Amad et Ben Dutai, quelle est la raison du fils de Dutai? Dirtiv, car il est écrit dans le verset, Vezavarta Pesach l'Hashem Elokecha, et tu offriras le sacrifice de Pesach pour Hashem ton Dieu, Son ou Bakar, du menu bétail et du gros bétail. Et il y a une question qui se pose. Ve'alo en Pesach, elam mina kevasim ou mina izim. Pourtant, le sacrifice de Pesach ne peut être offert que de la famille des moutons et des boucs, c'est-à-dire du menu bétail. Alors comment pouvons-nous dire qu'on offre à le sacrifice de Pesach Hashem du menu et du gros bétail? Et la tson de Pesach, nous sommes obligés de dire que de ce verset, lorsque nous parlons du tson du menu bétail, nous parlons du sacrifice de Pesach. Et Bakar, lorsque nous parlons du gros bétail, Zochagiga, ça nous fait allusion au sacrifice de Chagiga. Et donc, ces deux sacrifices sont offerts ensemble, même Shabbat. Donc, le sacrifice de Chagiga est offert, même Shabbat. D'Amar, Mana, la Torah a dit, Vezavarta Pesach, et tu offriras le sacrifice de Pesach, c'est-à-dire même Shabbat. Alors, Amar Ravashi, Ravashi a dit, Ve'anan, Tahama des Pouchim, Nikou Venifroch, et nous, nous allons nous lever et expliquer la raison de ceux qui se sont séparés des sages? Non, pas du tout. Lui s'est séparé des sages, c'est son problème. Nous ne devons pas expliquer sa raison. Alors la Gemara demande, alors pour quelle raison le verset est venu? Si nous n'utilisons pas ce verset pour l'expliquer, comme l'a expliqué Rabbi Yehuda ben Dutaï, alors comment allons-nous l'expliquer? Alors la Gemara nous répond, le verset est venu, l'Echdei Rav Nachman, pour le Udeata. Il est venu pour nous dire ce qu'a dit Rav Nachman. D'Amar Rav Nachman, Amar Rabba Bar Avwa, car Rav Nachman a dit au nom de Rabba Bar Avwa, Minayin le mutar ha-pesach shekarev shlamim, d'où savons-nous qu'une bête qui a été prélevée pour être offerte en tant que sacrifice de Pessah, et qui finalement, pour telle ou telle raison, n'a pas été offerte en tant que sacrifice, d'où savons-nous que cette bête est offerte en tant que sacrifice rémunératoire? Chez Nehema, comme il est dit, Vezavarta Pessah l'Hashem Elokecha, et tu offriras le sacrifice de Pessah à Hashem ton Dieu, Tson ou Bakar, du menu et du gros bétail. Et là, il se pose la question, Veri Pessah mina Bakarba, est-ce que le sacrifice de Pessah vient du gros bétail? Ve'eloen Pessah ba elamina kevasim. Pourtant, le sacrifice de Pessah ne vient que de la famille des moutons, ou mina izim, ou des boucs, c'est-à-dire du menu bétail. Alors, qu'apprenons-nous de là? Et la moutarde Pessah, de là, nous apprenons qu'un sacrifice de Pessah qui a été prélevé en tant que sacrifice de Pessah, et finalement n'a pas été offert, yel et davar abba minatan ou mina bakar. Il devrait être utilisé pour quelque chose qui peut être amené du gros, du menu et du gros bétail. Et c'est quoi une chose qui peut être amenée du menu et du gros bétail? C'est un sacrifice rémunératoire. Donc, de là, nous apprenons qu'un sacrifice de Pessah qui n'a pas été offert est amené en tant que rémunératoire. La Gemara demande maintenant, Verabanan, Maïta Amal Odaché Shabbat. Et les sages, pour quelle raison le sacrifice de Chagiga ne repousse-t-il pas le Shabbat? Ah, Vadaï Korban Tzibou. Pourtant, c'est sûr que c'est un sacrifice du public, de l'assemblée. Et les sacrifices publics repoussent le Shabbat. Azama Rabbeïla, Rabbeïla a dit, Mishum Rabbi Yehuda Ben Safra, au nom de Rabbi Yehuda Ben Safra. À Marka, le verset a dit, à propos de Soukot, il faut savoir que Soukot dure durant 7 jours. Et il y a le huitième jour, Shmini Atzeret. Donc en fait, la fête de Soukot, il y a 8 jours. Et durant ces 8 jours-là, on a le droit d'offrir le sacrifice de Chagiga. Et pourtant, le verset nous dit, Vechagot emoto chag l'Hashem, et vous le fêterez une fête pour Hashem, Shivat Yamim, durant Bashana, 7 jours par année. Donc, il y a une question qui se pose. Shiva, Shmona Abu. Pourquoi disons-nous 7 jours? Il y a 8 jours durant la fête. Et puisqu'il y a 8 jours durant la fête, il y a 8 jours apparemment que l'on a le droit d'offrir le sacrifice de Chagiga. Alors pourquoi le verset ne mentionne que 7 jours? Et la Mikan, alors de là nous apprenons, les Chagiga, que le sacrifice de Chagiga, chez En Adoret Shabbat, qui ne repousse pas le Shabbat. Or, durant une fête qui dure 8 jours, c'est obligatoire qu'il y a au moins un Shabbat. Et puisqu'il y a un Shabbat, durant ce jour-là, on ne pourra pas offrir le sacrifice de Chagiga. Et donc, en fait, on ne pourra l'offrir durant la fête que durant 7 jours durant la fête, on ne pourra offrir le sacrifice de Chagiga. Et donc, c'est pour ça que le verset nous parle que de 7 jours. Kiata Ravin, alors que Ravin est venu, Amar, il a dit, Amar tilifne rabotai, j'ai dit devant mes maîtres et j'ai posé une question, Peamim, shiya tamote, et la shisha, il existe pourtant des cas où on ne trouve qu'il y a que 6 jours où on peut apporter le sacrifice de Chagiga. Par exemple, Kegon Shechal Yom Tov Arishon Shechag B'Shabbat, le cas où le premier jour de la fête de Sukkot tombe un Shabbat. Et donc automatiquement le dernier jour va tomber aussi un Shabbat. Et donc il va y avoir deux Shabbats durant la fête. Et donc deux Shabbats, ça fera deux jours où on ne pourra pas offrir le sacrifice de Chagiga. Et il ne restera donc que six jours pour offrir le sacrifice de Chagiga. Alors pour quelle raison le verset n'a mentionné que sept jours? Amar Abaye, et alors Abaye a dit, Avin Tichla Lima Kiyayimita. Que Avin, qui a perdu ses enfants, dise une chose pareille, c'est pas une question. Shmona, l'homme a chacun de la classe. Pourquoi? Parce que 8 jours, c'est impossible de trouver un cas où on apporte le sacrifice de Chagiga durant 8 jours. Car il y a obligatoirement au moins un Shabbat. Shiva, itaberov shanim. 7, c'est la majorité des années, il y a 7 jours où on ne peut pas apporter un sacrifice de Chagiga. Et 6 jours, c'est vraiment des cas de temps en temps. Et donc c'est pour cela que le verset, lui, nous a parlé de 7 jours, car la majorité des années, c'est ainsi que cela se passe, et donc il n'y a pas lieu à la question de Rabin. Et nous avons fini ici le shiur de Daf Ayin. Nous commençons Bezrat Hashem, le shiur de Daf Ayin Aleph. Nous sommes Daf Ayin Amud Bet, quatrième ligne avant la fin. Amar Oula Amar Abelaza. Oula a dit, au nom de Rabbi Lazar, Shelamim Sheshachatan Me'erev Yom Tov, des sacrifices rémunératoires qu'il a offerts la veille de Yom Tov, c'est-à-dire le 14 Nissan, Eno yote baem, lo mishum simcha, velo mishum chagia. Il ne pourra en les consommant ni se rendre quitte de son obligation de se réjouir en amenant un sacrifice durant la fête, ni de son obligation du sacrifice chagia, du sacrifice de la fête. Et la Gemara explique pourquoi. Mishum simcha, il ne pourra en offrant ce sacrifice se rendre quitte de son obligation de se réjouir durant la fête avec des sacrifices. Dire-t-il, car il est écrit, Vezavarta, Vezamarta, et tu offriras et tu te réjouiras. Et nous donc, Bainan Zevicha, on a donc besoin d'offrir le sacrifice.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.